Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors ce soir, nous recevons Benoît Martin, qui est l'organisateur de la conférence César, qui s'est tenue à Rennes les 23, 24 et 25 novembre 2015. Nous recevons également Loïc Guézot, qui a participé à la conférence. Alors aujourd'hui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Éric Fraissinet.
Bonjour.
Guillaume Prigent.
Bonjour.
Guillaume Lopez.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Bonjour.
Loïc Guézot.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Kola.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Benoît, bonjour.
Bonjour.
Donc la conférence César, elle a été créée quand ?
Alors elle a été créée en 1997, et là on en est donc à la 22e édition, sachant que les premières années, en fait, il y avait deux éditions annuelles, quoi. Ça s'adressait en fait aux personnes du ministère de la Défense. Et progressivement, donc, elle a pris son ampleur. Initialement, ça s'appelait les journées CECI. En 2006, elle a changé de nom pour prendre l'appellation Conférence César, et ça correspondait un peu à une ouverture également vers l'international. Et on peut dire, là, depuis 5 ans, qu'elle a pris aussi une nouvelle dimension avec le développement de la problématique de la cyberdéfense.
Alors, César, qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Ah, alors ça c'est un acronyme. Alors c'est le Computer and Electronics Security Application Rendez-vous. Et ça a pris cette dénomination-là, comme je disais tout à l'heure, lorsque la conférence a une portée internationale, quoi.
Donc tous les ans une thématique différente?
Alors chaque année, donc en fait il y a un comité d'organisation, comité permanent, qui se réunit en début d'année. Pour définir une thématique. Alors, la finalité de la conférence, c'est de réunir la communauté du domaine de la sécurité et puis de la cybersécurité autour d'une thématique émergente par rapport à des thèmes que l'on voit apparaître entre les communautés du domaine académique et puis également les communautés du domaine, évidemment, de la défense et puis du domaine industriel. La finalité, c'est vraiment de réunir ces trois communautés et après de les faire échanger, réfléchir sur un thème que soit le monde académique, soit au niveau de la recherche, soit au niveau également industriel, que l'on a identifié comme important et qui va s'imposer comme dans les prochaines années. On est un peu un rôle de médiation entre des travaux exploratoires et en fait des prochaines applications dans les différents domaines, que ce soit industriel, évidemment, pour nous, partant de la problématique du ministère de la Défense, quoi.
Quelques chiffres. Il y avait, par exemple, combien de participants cette année?
Donc là, cette année, on était, il y avait 380 inscrits. Donc, sachant qu'après, bon, c'est comme toutes les conférences, hein, on était jusqu'à 300 participants au pic de la conférence, quoi.
La thématique cette année, quelle était-elle?
Alors, cette année, on a choisi la résilience. Alors, la résilience, en fait, c'était par rapport à des thèmes qu'on avait abordés les années précédentes, où on avait abordé, donc, la sécurité des systèmes industriels, notamment il y a 2 ans. Et l'année dernière, on avait abordé des aspects réaction et détection. Et cette année, donc, résilience. Et ce qui nous a semblé intéressant et important, c'était justement de croiser en fait deux problématiques au travers de la résilience, qui sont le croisement entre les problématiques de sûreté de fonctionnement propres au monde industriel et les problématiques de sécurité au monde de l'IT et des systèmes d'information. Et une des problématiques, c'était un peu comme cela qu'on le posait, c'est dans quelle mesure ces points-là convergent ou quels sont les points de divergence par rapport à ces problématiques-là. Et donc, en fait, de faire un état, un point de situation, déjà de la vision de différentes communautés, quelle définition ils ont déjà de cette problématique de résilience. Là, on a vu qu'il y avait des approches d'ailleurs au niveau de la terminologie et puis même au niveau des finalités différentes, et au travers de ça après de voir quels étaient les points d'accroche ou les points de divergence. Et alors ça c'est un aspect, et l'autre aspect aussi c'était de balayer un peu tout le spectre des systèmes. On a eu des exposés sur les aspects matériels jusqu'à l'aspect système, Également donc sur les domaines dans les systèmes industriels, donc au niveau des transports, également au niveau des systèmes concernant l'énergie, et également au niveau des systèmes de communication avec un certain nombre d'exposés, notamment de la part d'Orange là-dessus.
Alors, la résilience, c'est un sujet très intéressant. Je vais demander aux personnes qui ont participé à cette conférence, selon vous, est-ce qu'il y a, alors Benoît disait qu'il y avait des perceptions différentes, est-ce qu'il y a quand même une certaine convergence de vues en ce qui concerne la résilience?
Donc on a eu plusieurs définitions dans le courant des trois jours de la conférence. Je pense qu'il y a aujourd'hui une équation sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est dire, avec peu de détails, sécurité plus sûreté égale résilience. Après, je pense que les chemins divergent un peu quand tu rentres dans le détail et quand tu penches plutôt côté sécurité, plutôt sûreté. Donc quelque part, je dirais qu'aujourd'hui aussi, la perception que j'ai eue, c'est que la sécurité était plus portée par le côté soft, par l'informatique, et la sûreté était clairement plus portée par le côté hard, plutôt par les côtés systèmes divers.
Alors, si j'ouvre mon dictionnaire, sécurité et sûreté sont des synonymes. Pour ce qui est de la définition de la résilience, il y a une définition normalisée. Personne n'en a parlé à la conférence?
Si. Les différentes communautés ont présenté justement les définitions. Les premières conférences ont abordé justement les différentes définitions de la résilience. La question, en fait, s'est surtout posée par rapport à la problématique de convergence ou pas entre l'approche des systèmes, des systèmes d'information. Ou qui parle en termes de sûreté, de sécurité, pardon, et donc en fait de réaction et de résistance par rapport à des événements imprévus, à des dysfonctionnements, voire des attaques ou à différentes vulnérabilités, par rapport au monde des systèmes industriels qui aborde plutôt la partie sûreté de fonctionnement, quoi. Donc en fait, la notion qui a été abordée, ça a été l'importance de revenir à un état stable, par exemple.
Il y a eu quand même une certaine unanimité là-dessus. Hein. Je crois que pour un très grand nombre d'intervenants, la résilience, c'était le fait de revenir à un état normal, on va dire.
Oui, c'est ça. Enfin, ça c'était le thème au niveau de la définition enfin qu'on avait proposé au niveau de la conférence, hein, c'était justement de garantir un niveau de fonctionnement, y compris en présence d'agression. Alors il y a deux types de dysfonctionnement, les pannes, et ça c'est de la sûreté de fonctionnement, et tous les systèmes qui adressent la sûreté de fonctionnement ont une très forte expérience avec tous les aspects de la normalisation. Voilà, là il y a eu des témoignages dans le domaine des systèmes énergétiques et également des références dans le domaine de l'aéronautique. Donc ça ça a été parfaitement abordé au cours de la conférence. Et après l'autre aspect, donc ces systèmes-là doivent résister en fait à des pannes pour revenir en état stable, à la différence des systèmes d'information qui eux doivent résister à des dysfonctionnements imprévus, typiquement des attaques, et pour lesquels on ne peut pas prédire un scénario de retour à un état stable, puisque le dysfonctionnement est par définition dans un contexte des attaques imprévisible. Et ça, c'est en fait au cours des interventions de conclusion, on vient d'aborder justement le caractère un peu imprévisible des dysfonctionnements et justement comment les systèmes doivent-ils être conçus, doivent-ils être préparés pour pouvoir résister à ces aspects imprévisibles, imprévus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, au niveau de la conception, on ne peut pas, on ne peut pas être certain de l'état dans lequel va se trouver le système dans les différents cas de dysfonctionnement. Et ça, c'est justement des pistes d'études qui ont été proposées à la réflexion de la communauté à l'issue de la conférence.
Là, je sais pas si... Et ça, c'est enfin, ça a toujours été le cas à l'ISO. La résilience, c'est la capacité d'une organisation à savoir résister à des incidents perturbateurs. Et les incidents perturbateurs, il y en a certains qui sont plus ou moins prévisibles, d'où l'intérêt de faire une appréciation des risques, mais il y en a tout un nombre qui ne peuvent pas être prévisibles, d'où l'intérêt de faire un PIA, c'est-à-dire indépendamment du scénario, de prévoir qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus rien. Donc Hervé, pour moi, ce sont des notions qui sont très, très claires et sans ambigu.
Ben, Hervé, sans savoir résister, c'est la résistance, c'est pas de la résilience.
Oui, alors.
Savoir gérer, c'est the ability to manage. The ability of an organization to manage disruptive related risks.
Non, mais Hervé, tu es un fervent défenseur de la langue française. Moi, j'aimerais citer Boris Cyrulnik. Donc, d'accord. Parce que la résilience, c'est d'abord du domaine du psychologique. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau psychologique, a suivi un traumatisme et qui est capable de sortir de la dépression. Donc, est-ce que vous avez parlé, lors de la conférence, de la capacité à ne pas reproduire, ou en tout cas à sortir de l'acte fatal, enfin de la disruption?
En fait,
moi, j'ai testé pour toi. Hein. Je suis allé me déclarer en sécession de paiement un jour, hein, et je m'en suis sorti. Donc,
ouais, mais, t'avais mais tu avais ton umbrella.
Le problème des dysfonctionnements, c'est toujours la notion de retour à un état stable. Et la grande question par rapport au système, c'est en fait la finalité d'un système. Si c'est un système où il y a eu pas mal de témoignages, de rétex, d'exposés sur les systèmes industriels, la caractéristique d'un système industriel, c'est justement il remplit une mission et tout son comportement est parfaitement défini. Et le but, c'est qu'en fait, ils reviennent en cas de panne, ils s'arrêtent. Quand ça a été fait, si on parle d'un train, il s'arrête, c'est bien. Si c'est un avion, il s'arrête. C'est déjà un peu problématique. Ça a été abordé, ce point-là. Mais bon, le modèle, c'est de revenir à un état stable défini à l'avance. Quand il y a des systèmes qui, en cas de dysfonctionnement, en cas d'agression, rentrent dans des comportements qui ne permettent plus de remplir leur mission. Ça, c'est un modèle qui je pense, aussi également bien abordé, qu'on retrouve dans le domaine militaire, où justement, y compris les systèmes d'information, ils ont une finalité, une fonction. Et si jamais le dysfonctionnement ne permet pas de rendre la fonction, le système doit être, enfin, en tout cas, toutes les agressions doivent être appréciées par rapport à la finalité du différent système. Alors, est-ce que ce modèle-là, il est applicable dans tous les cas? C'est là où, au travers de la conférence, on a bien montré qu'il y a des systèmes dans lesquels on ne peut pas prédire à la conception tout le comportement qui fait qu'on peut revenir à un état maîtrisé en cas d'agression. Si, en fait, on répond oui à cette question-là, ça veut dire que sûreté de fonctionnement et sécurité doivent converger, même si actuellement on n'est pas, il y a des points de divergence. Ces points de divergence peuvent converger. Si la réponse est non, eh bien ça veut dire qu'il y a il y a un espace à définir où sécurité et sûreté ne convergent pas. Et à ce moment-là, est-ce que ce point-là c'est un point nouveau qui peut s'appeler la résilience? Ça, c'est un peu une des pistes qui a été abordée au cours de la conférence.
Alors Jeff, justement, selon toi, la résilience après la conf, comment est-ce que tu perçois ça?
Bah, sur le fond, j'aurais tendance à dire que ça n'est que rappeler les bonnes pratiques, quoi. Donc, un système se protège en amont, il faut avoir une capacité de détection, il faut avoir une capacité de prévoir l'imprévisible, entre guillemets, et de répondre sur une intrusion ou sur un problème de sécurité. Et c'est effectivement quand on a fait ces quatre grandes étapes, même si je simplifie peut-être un peu, on obtient, entre guillemets, du moins on tend vers un objectif de résilience. Fondamentalement, c'est ce que j'ai retenu, c'est assez classique, en fait, comme approche. Peut-être qu'il y a encore beaucoup, il y a encore des personnes et des organisations qui se disent j'ai des systèmes, j'ai fait tout un travail en amont pour protéger mes systèmes, pour éventuellement avoir des détections d'intrusion, donc je suis sécurisé, et elles ne vont pas, sur les étapes suivantes, assumer, intégrer le fait qu'elles vont être trouillotées tôt ou tard. Donc, quelque part, c'est assez classique en fait ce qui a été dit, mais je pense que c'était intéressant et peut-être la relation entre le côté là, où j'ai trouvé les choses peut-être plus intéressantes, hein, c'est sur le côté la liaison et tous les parallèles entre la sûreté de fonctionnement, tout le côté matériel, tout le côté équipement et système de confiance, où là on touchait vraiment un peu le sujet du doigt, au-delà des choses assez classiques entre guillemets, d'avoir un cycle de réponse sur incident que maintenant toute grande organisation se doit d'avoir.
Alors, moi, j'ai pas assisté à la conférence, mais est-ce que la résilience, en fait, c'est revenir à un état sain de manière complètement automatique ? Parce que toutes les organisations humaines sont résilientes. Hein, je veux dire, tu as une intrusion chez toi, bon, bah, t'envoies quelques gars réinstaller des machines, formater, remplir des feuilles Excel avec des logs, et puis tu vas revenir à l'état d'origine. Est-ce que la résilience, ça consiste à dire qu'on veut remplacer les humains par des machines et qu'on...
Ben, du coup, c'est pas ça qui s'est dit. C'est pas ça qui était dit, Nico. Hein. Le propos était, tu peux pas uniquement faire. Il y a tout le temps un équilibre entre le classique process, people and technology, et les personnes étaient vraiment à la manœuvre. J'ai pas senti d'aspect fully automatique en mode autopilote. Comme certains peuvent le prédire, parce que c'est pas la vraie vie, ça. Ça voudrait dire, si c'était le cas, ça voudrait dire que tu aurais prévu tous tes scénarios d'intrusion, tous tes scénarios de défaillance, ce qui est virtuellement impossible. Ou alors tu as un système intelligent qui est capable d'imaginer la bonne réponse au scénario inconnu. Ça existe peut-être, mais peut-être pas à ma connaissance.
Bah, les avions font pas mal, mais à la fin, il y a quand même le pilote, quoi. C'est ça qui... Enfin, je pense pas qu'on puisse faire un système complètement automatique qui retomberait toujours sur ses pattes.
Ça là, la notion qui a été introduite et qui me semble intéressante, c'est pas revenir sur l'état d'origine et retomber sur ses pattes telles qu'on était à l'origine, c'est retomber sur ses pattes dans un état qui est dit sûr. Donc c'est un mélange entre des automatismes techniques qui permettent de garantir certaines bases, certains socles, et puis cette boucle de détection, réaction et correction du système qui permet de revenir à un état sûr. Donc c'est pas forcément l'état d'origine, mais c'est un état qui permet d'avoir un fonctionnement sûr, hein, bon, variable selon son environnement, mais en tout cas qui porte pas atteinte à l'extérieur, à la vie humaine ou autre.
Mais ça soulève une autre question dans ce cas-là, c'est comment tu détermines qu'un état tu es redevenu dans un état stable et normal ou sûr. Potentiellement après une panne, ça peut être, tu peux le déterminer avec des procédures, des cahiers de tests, des choses comme ça. Mais après une intrusion, déterminer que ton SI est de nouveau sûr ou dans un état stable, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Alors c'est pour ça que ça, cette notion-là introduit, la notion de confiance. La notion de confiance a été abordée. Et il a été abordé par un des exposés, je crois que c'est Solucom qui a fait ce constat-là, c'est qu'il y a une chose qui apparaît en cas de dysfonctionnement, il y a un dysfonctionnement intentionnel, c'est la perte de confiance dans le système. Et l'utilisateur perd confiance dans le système, c'est-à-dire il y a une évolution de l'environnement, et là l'environnement utilisateur, qui lui-même ne va plus utiliser son système de la même façon puisqu'il n'a plus confiance. Donc il faut recréer cette confiance-là. Et ça, c'est une notion importante. Je voulais aussi réagir en disant, attention, résilience, en plus là, tout à l'heure, vous l'avez repris par rapport à la définition de Boris Cyrulnik, il y a bien revenir, peut-être repartir, redémarrer, mais avec une capitalisation sur le dysfonctionnement. Enfin, Cyrulnik, lui, en tout cas, il parle bien de la capacité à redémarrer, à repartir dans la vie, mais toujours en ayant en soi la mémoire et la trace du drame. Donc en fait, c'est la notion de capitalisation sur l'agression que l'on a, chose que l'on n'a pas en protection-défense et détection, protection-détection, c'est que vous l'avez évoqué, c'est-à-dire on a une panne, on revient à un état connu et on redémarre. Là, l'idée, c'est justement, quand on fait un patch, en fait, on améliore son système, pour se prémunir qu'on le modifie un petit peu. Donc en fait, il y a une capitalisation et une évolution du système par rapport aux agressions qu'on a subies. C'est ça en fait qui est nouveau avec cette notion de résilience par rapport à des conceptions qu'on en avait de la sûreté et puis de la sécurité, quoi.
Ouais. Alors, moi, je connaissais pas du tout ou très très mal les aspects sûreté. Et cette conférence m'a permis de vraiment m'éclairer sur ces problématiques. Et je m'aperçois effectivement qu'il y a des divergences de vues en ce qui concerne la sûreté et la sécurité. Par exemple, en sécurité, si on est capable de résister, on n'a pas besoin de résilience. Tant que tu es capable de résister à une attaque, t'as pas été impacté finalement. Donc, la notion de résilience est importante pour reprendre une activité normale. Mais si tu es capable de résister, de voir les attaques, d'y résister,
mais ça marche pas comme ça. Tu résistes jusqu'à un certain point. Pourquoi tu fais de la défense en profondeur ? Précisément pour essayer de mettre fin à l'attaque suffisamment en ayant détecté suffisamment tôt. Le problème, c'est que tu résistes, mais ta première barrière, elle a été enfoncée. Donc, il arrive un moment où il y a des systèmes chez toi qui n'ont plus le fonctionnement habituel, qui n'ont plus le fonctionnement nominal. Donc, même si tu as une bonne capacité de résistance, il arrive un moment où tu dois être organisé et architecturé avec un socle architecturé de manière à être résilient.
Non, je dis pas que moi je suis vraiment un fervent défenseur de la résilience. Je pense que c'est vraiment maintenant indispensable. Mais je voulais juste te dire que en fonction du contexte, sûreté ou sécurité, t'as des approches, il y a des approches qui sont différentes. Et pour illustrer ça, je dirais que si tu es capable de tout détecter, imagine qu'on soit capable maintenant de détecter toutes les attaques. Si tu es capable de toutes les détecter, tu es quand même en mesure de t'en prémunir d'une certaine manière, parce que ce qui impacte actuellement les systèmes d'information, c'est ce qu'on voit pas. Tu es d'accord avec ça ?
Ce que tu vois pas ou ce qui va trop vite.
Ou ce qui va trop vite. Par exemple, là tu parles de déni de service.
Non, pas forcément. Une pandémie virale, des choses comme ça, qui va beaucoup plus vite que ton temps de réaction humain, ouais. Manuel.
J'avoue que j'avais pas pensé à ça.
Si, ça, c'est une notion, ça n'a pas été trop abordé, ou en tout cas, on n'a pas pointé ça lors de la conférence, mais c'est la relation au temps. En fait, quand on est dans des cycles de... le temps se raccourcit et voire même le modèle de la lutte antidopage et ce genre de choses ou des virus d'ailleurs des virus bactériologiques c'est en fait entre le moment où il y a la propagation ou l'attaque et le moment où il y a la détection puis et la réaction, il y a toujours le temps n'est pas le même quoi. Ça peut être aussi un critère, c'est de mesurer le temps entre le moment où l'attaque le produit et le moment où on la détecte. Et on peut, enfin ça avait été mis en évidence il y a 2 ans lors de la conférence César, ce système industriel où un des intervenants avait proposé cet indicateur-là en disant on peut mesurer qu'on s'améliore. Alors c'est pas tout, on n'adressait pas la résilience, mais au moins dans le processus de détection, de réaction aux attaques, en mesurant le temps entre l'occurrence de l'attaque et sa détection. Parce que quand on la détecte, on peut remonter en faisant dans du post-mortem, on peut remonter à savoir depuis combien de temps on est exposé. Et ça, on peut mesurer que ce temps se raccourcit. C'est là où on s'améliore dans le processus. Et je pense qu'au niveau de la résilience, on est un petit peu dans c'est l'exploitation un peu de cette échelle et de ce temps de réaction et de l'appréciation de cet indicateur, d'un de ces indicateurs-là qui peut permettre de valoriser peut-être en tout cas un indicateur de résilience. Ce que j'en ai retiré de ce point-là, c'est entre sûreté, sécurité et résilience, est-ce que résilience c'est en fait une appellation mais convergente ou pas ? Moi, il me semble que ce qui s'est dégagé, c'est que la résilience était une caractéristique nouvelle, au même titre que un indicateur de sûreté et un indicateur de sécurité, et qu'il méritait d'être remonté pour que un décideur de système puisse prendre des décisions. On parlait tout à l'heure du pilote d'avion, s'il a un indicateur de sûreté, un indicateur de sécurité, un indicateur de résilience, peut-être que c'est 3 indicateurs qui peuvent lui permettre de prendre sa décision. Peut-être. En tout cas, ce sont des pistes de réflexion pour prolonger en fait le sujet de la résilience par-delà de ce genre d'échange et de réflexion.
Guillaume, tu voulais apporter une précision ou donner ton point de vue?
Je pense que ça a été bien résumé par Benoît. Enfin, moi, j'ai l'impression. J'ai assisté qu'aux conférences de mardi. Mais c'est vrai que le sujet de résilience, c'était pas un sujet, je pense, facile à traiter par les différents intervenants. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que la résilience, c'est un peu la croisée des chemins entre le système d'information classique et le système industriel. Et comme le disait Benoît, finalement, c'est quelque chose qu'on appliquait en fait sans doute au système industriel, et aujourd'hui, comme les SI industriels sont connectés au système d'information classique, on applique maintenant cette thématique au SI classique.
La résilience, c'est quelque chose qui est attaché à un métier. C'est simplement parce que les métiers aujourd'hui reposent sur des systèmes d'information, reposent sur des outils industriels, qu'on fait le lien. Mais ce qui compte d'abord, c'est que face à un sinistre, un métier donné, qui parfois fonctionne sans informatique et sans système industriel, continue à fonctionner.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Hervé. C'est le super exemple qui a été donné en fin de conférence sur les systèmes de la DGA dans le cadre du projet Scorpion. Donc ce qu'on a vu dans le cadre de la présentation qui illustrait les évolutions des systèmes dits Scorpion, c'est à quel point la numérisation, l'introduction des systèmes d'information dans les systèmes de combat et d'information de l'armée introduisait de nouveaux risques et en tout cas la volonté de travailler sur ces aspects de résilience en intégrant cette fois-ci à très, très haut niveau la sécurité du système d'information, alors que ce n'était pas le cas avant. On parlait bien entendu de résilience, mais on était plus dans du hard, on parlait plus de, je vais caricaturer, mais on parlait plus de blindage et de capacité à résister aux assauts, plutôt que de mise à jour des systèmes et de capacité à être opérationnel avec ces mises à jour en opération et en opération extérieure, quoi. Donc, c'est exactement ce que disait Hervé. La résilience aujourd'hui, je pense qu'on en parle beaucoup parce qu'on se rend compte quelque part que l'introduction de la numérisation de systèmes industriels ou de systèmes qui n'étaient même pas du tout, même pas électromécaniques ou qui étaient vraiment physiques, subit une fragilité à cause de ces systèmes numériques et des besoins de mise en sécurité.
C'est-à-dire que les agressions, enfin, ou les dysfonctionnements, en fait, dégradent le système. Et c'est la résilience aussi, c'est une façon de, enfin, on peut mesurer la résilience, c'est une façon aussi d'apprécier la dégradation par rapport à l'impact que ça a sur la fonction du système. C'est plus un état binaire, enfin, ou en tout cas un état un automate d'état où on peut dire bon là c'est bon, c'est pas bon, ou il y a une certaine continuité dans la dégradation parce que les systèmes sont complexes, qu'il faut agréger plein de paramètres, et c'est ça qu'il faut pouvoir rendre au final pour que on puisse dire quel est l'état du système, ou est-ce que le système il est plus suffisamment fiable, et auquel cas faut l'arrêter. Il y a vraiment cette notion de une certaine dimension dynamique et puis agrégation de plusieurs paramètres de différents horizons qu'il faut pouvoir apprécier par rapport à la finalité d'un système. C'est un peu ça la nouveauté, la nouveauté, ou en tout cas les éléments qu'adresse la résilience.
Alors, quelles sont les conférences qui vous ont marqué?
Moi, j'ai vu deux. Parmi beaucoup de conférences intéressantes, j'ai vu deux conférences qui ont retenu mon attention. Une première sur les Troyens hardware, qui était particulièrement intéressante parce que là on revient vraiment au niveau basique, le hard, et on voit à quel point il y a déjà un combat et des luttes pour obtenir des puces de confiance sur lesquelles tous ces systèmes vont être construits. Donc déjà c'est assez flagrant de voir qu'on revient. Quand on parle de résilience, on revient à parler simplement de confiance dans le hard. Et puis, si on va un peu dans le domaine du soft, il y a une conférence aussi qui était très basique, mais qui était très intéressante de voir Aujourd'hui, en 2015, on reparle tout simplement de protocoles historiques de l'Internet, qui aujourd'hui est présent dans toutes les infrastructures, tout ce qui est BGP, routage sur Internet et la capacité des acteurs X, Y ou Z à introduire des dysfonctionnements dans ces systèmes de routage mondiaux et à faire disparaître pendant quelques minutes ou quelques heures des pans entiers d'Internet sur lesquels on est en train de construire tout un tas d'infrastructures. Donc là, on parlait de résilience, on est revenu au basique, hein. Le hard, la confiance dans le hard, et puis tout ce qui est communication moderne, Internet, la confiance dans l'infrastructure, BGP, DNS. Et on n'a pas de réponse.
Mais on continue à fonctionner avec. Voilà. On n'a pas la réponse. C'est bien ça, c'est ces nouveautés là, cette prise de conscience qui est nouvelle, quoi.
Alors, Jeff.
Après, soyons pragmatiques. Hein. J'ai posé la question à mon collègue d'Orange. Il y a combien d'entreprises qui ont les notions suffisantes sur le fonctionnement BGP et puis qui se disent, bon, je vais superviser mes annonces de route d'un nombre suffisamment grand de points d'observation sur Internet pour détecter un éventuel détournement de mes propres adresses IP, ça c'est déjà une première chose, mais aussi un éventuel détournement des adresses IP de mes partenaires, de mes clients avec qui j'établis des communications. Extrêmement peu, restons pragmatiques. Et là, j'aurais tendance à dire que sur ce sujet-là, bon, oui, on sait. Qu'est-ce qui est fait en termes de détection? Peut-être pas grand-chose. On est plutôt dans le mécanisme de protection, en disant, bon, dès que j'envoie du trafic sur Internet, il faut qu'il soit chiffré. Mais sur le volet détection, il n'y a pas grand-chose de fait dans le domaine, par exemple, hein, au niveau annonce BGP, mis à part par certains acteurs un peu, entre guillemets, au fait de ce type de problématique.
Et sinon, quelle conf t'as marqué?
La conf sur les backdoors hardware a été assez intéressante. Sujet que j'ai un peu découvert. Bon, j'ai pas tout compris, hein, loin de là. Mais des techniques d'attaque et des techniques de défense qui m'ont semblé quand même assez sortir de l'ordinaire. C'était un peu le sujet découverte, on va dire. De cette conf. Et puis après aussi, je reviendrai aussi un peu sur la conf là au niveau du système Scorpion. On sentait un peu le pragmatisme dans l'approche, notamment autour de tout ce qui est correctif et patch de sécurité. On patche pas des systèmes en opérationnel tous les 4 matins. Et le speaker était retombé en disant, bah, on met déjà au contrat et ça nous coûte très cher pour avoir des correctifs de sécurité qui sont au moins déployés tous les trimestres ou une fois par an. C'est une belle progression par rapport à des systèmes qui restaient dans la nature sans correctifs pendant 5 ans. Et ça, c'est effectivement, ça sent le vécu, ça sent l'opérationnel et c'est aussi ce qu'on retrouve dans certains environnements IT. On ne peut pas faire patcher des systèmes toutes les semaines, si tant bien était qu'il le faudrait. Donc cette conf-là était assez aussi intéressante, ancrée dans le concret. On sentait que c'était et j'étais aussi assez impressionné de voir que les systèmes d'armes qui vont sortir là ou qui sont sur le point de sortir, on va avoir des véhicules avec des tourelles automatiques qui vont se coordonner entre elles suite à une détection d'une menace. Ça va dans le bon sens, mais effectivement tout le hacking qu'on peut avoir eu cette année et donc qui a fait couler pas mal d'encre autour de tout ce qui est voitures connectées, et ben c'est des problématiques qui sont pas théoriques et qui touchent et qui vont bien au-delà de la voiture de monsieur et madame Michu, avec des impacts clairement plus grands, quoi.
À cette occasion, on a aussi découvert un nouveau terme, en tout cas moi je l'ignorais, la vétronique, donc tout ce qui est autour du véhicule sous forme électronique et donc les véhicules connectés vus par la DGA.
C'est pas propre à la DGA. Hein. Je...
Non, enfin, je l'avais présenté dit, dans le cadre de, du...
D'accord.
Du retour d'expérience de la DGA.
Guillaume ?
Bah alors moi, ça va être limité. Hein. Enfin, comme j'ai dit, j'ai assisté qu'à la journée de mardi. Bah non, je pense que je vais rejoindre Jeff sur la conférence sur les chevaux de trois matériels. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et bah, comme j'étais un peu, enfin comme j'étais aussi novice sur le sujet, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Donc je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Sinon, une qui était pas mal, c'était celle de Solucom. Je trouvais que le retour d'expérience qu'ils ont présenté finalement était assez pragmatique. Il y avait pas mal de petites bonnes idées sur il y avait des termes rigolos là pour le CBAT là pour cyber security du coup j'ai oublié le nom business analyst team si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Une équipe plutôt dédiée aux incidents de sécurité mais à la composante métier plutôt que technique donc ils voyaient plutôt enfin, qui vient coordonner, enfin, pas coordonner, mais plutôt épauler le SOC et le CERT. Donc, cette conférence-ci était pas mal, même s'il y avait un florilège de termes cyber tout au long de la conférence. Et sinon, une dernière conf de la journée qui était assez rigolote, je sais pas si vous connaissez, de quelqu'un qui s'appelle Johan, sur l'hameçonnage ciblé à la compromission totale du domaine. Bon, c'était assez intéressant. Comment ça m'aura permis d'apprendre à utiliser l'outil Armitage.
Merci. Benoît ?
Oh ben moi j'ai un peu un devoir de réserve par rapport à tout ça parce que moi j'ai trouvé, enfin bon, étant donné que j'avais participé à la constitution du programme, donc j'avais des eu égard à tous les intervenants, je réserve ma réponse quoi, sur les éléments. Moi, j'ai trouvé, enfin, en tout cas, je vais plus parler en termes de, par rapport à l'organisation, enfin, au programme. J'appréhendais, en fait, la disparité des exposés, des conférences, parce qu'on pouvait perdre de vue en quoi chaque conférence, quel était le lien de chaque conférence, de chaque intervention par rapport au thème de la résilience. Et ce qui me fait plaisir, là, c'est que justement, là, vous ayez réagi et apprécié sur l'exposé sur les chevaux 3, la matérielle. Ça montre que même, tous les éléments comprennent un élément discret, comme un élément matériel, un élément de protocole, tous les éléments contribuent qui ont été abordés, ben, avaient leur place dans, par rapport au thème de la résilience. Et finalement, enfin, moi, globalement, au niveau de la conférence, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a rassuré, ça a été justement que les différents exposés contribuaient à, évidemment, pas toute la globalité de la problématique, mais trouvaient leur place pour apporter leur pierre, soit renforcer la détection, soit renforcer la protection, soit apporter des éléments, des indicateurs nouveaux par rapport à la problématique de résilience qui est un peu la problématique émergente. Donc, c'est vraiment globalement la cohérence de tous les sujets par rapport à cet objectif-là, quoi. Je pense que, il y aura peut-être un ou deux exposés qui étaient plus éloignés, mais autrement, pour les autres, c'était bon.
Moi, je voulais juste, pour conclure, reparler d'une autre conférence que j'avais pas citée, mais que j'ai trouvé très intéressante parce que finalement elle était le dernier jour et elle faisait une bonne synthèse entre le hard, le soft, des cadres de référence et une démarche type consulting. C'était la conférence d'HP qui m'a agréablement surpris.
Oui, d'autant plus que la problématique de sécurité du SDN avait été abordée la veille. Et que là, il y avait quand même une émergence de solutions en tout cas.
Ah ouais, donc et justement HP a développé cette notion de retour à l'état de confiance, a pas mal abordé justement sur donner des éléments pour à identifier cette notion d'état et état de confiance quoi, d'apporter une mesure qui me semble être un élément, comme je le disais tout à l'heure, important de la résilience. Effectivement, l'intervention d'HP qui présentait un un intérêt par, en, en termes de solution par rapport aux, aux différents exposés de la conférence.
Nico, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ?
Non, bah écoute, je crois qu'on peut dire que les actes sont disponibles. Je ne sais pas s'ils le sont déjà, mais il me semble que chaque année, ils sont publiés sur le site web, non ?
Non, enfin, on publie pas les actes sur le site web. La, la question était posée là, au niveau du comité d'organisation. Je, on va regarder pour justement que les actes soient, soient en ligne. Hein. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on ait l'accord de tous les orateurs, parce que jusqu'à présent, c'était réservé uniquement aux, aux participants. Mais il y a quand même, bon, on va essayer d'adresser cette, cette question-là. Quoi.
Bon, et bien Benoît, un grand merci d'avoir participé à cet épisode.
Très bien, ben c'est moi qui vous remercie pour ce, cette prolongation de la conférence.
Bon, et bien, nous vous incitons fortement à vous rendre l'année prochaine à Rennes pour assister ou pour participer à cette conférence César qui est très intéressante. Avant de terminer, nous allons passer à la minute fail.
Alors, quel est le fail de la semaine ?
Et alors, je vais vous expliquer ça tout de suite, mais avant, je vous précise que le principe donc du fail, de la minute fail, n'est pas d'accabler les gens, mais plutôt de prendre un peu de recul avec humour, même si sur le moment, ça devait pas forcément être très très drôle pour les personnes impactées. Donc je ne citerai aucun nom, et j'ai légèrement modifié certains éléments de l'histoire.
Alors, ça s'appelle de l'anonymisation.
Tout à fait. Alors, cette histoire concerne une entreprise faisant une grosse partie de son chiffre d'affaires grâce à son site web. Donc, de façon macroscopique, l'entreprise dispose de bureaux reliés au data center qui lui-même est connecté à Internet par un unique bastion de firewall redondé physiquement et avec plusieurs arrivées télécom, donc c'est du solide. Voilà, le décor est posé. Un jour, un utilisateur vigilant remonte au CSIRT le fait qu'il a reçu un mail un peu louche contenant une pièce jointe, un document Word. Donc en moins d'une demi-heure, les experts du CSIRT analysent le document Word, trouvent un classique VB script allant chercher un binaire sur Internet et remontent les URL au SOC. Sauf que c'est trop tard. Dans les logs des proxys, on voit déjà pas mal de téléchargements, enfin des dizaines de téléchargements du binaire. Donc bon, les URL sont quand même blacklistées sur les proxys. Des actions sont entreprises pour traiter les postes des utilisateurs identifiés comme ayant été infectés. Et le CSIRT décide quand même d'entamer la rétro-ingénierie du binaire pour essayer d'identifier les adresses IP ou les noms de domaine des serveurs de commande contrôle des criminels. Donc là encore, en à peine une demi-heure, moins d'une heure, les IP sont identifiés. Donc les experts ont vraiment bien fait leur travail. Et ils demandent en urgence aux exploitants de bloquer les adresses IP sur les firewalls du bastion Internet. Jusqu'ici, tout va bien. Petite dédicace pour Hervé, les firewalls étaient quasi neufs et fonctionnaient avec la notion de zone, par opposition à d'autres technologies qui n'implémentent pas cette notion de zone. Donc sous pression, l'intervenant n'était pas vraiment très très à l'aise avec la notion de zone, donc il a créé une espèce de règle bloquante positionnée en amont de toutes les autres règles, avec pour source une zone NI, en destination une zone NI, et en se trompant sur la saisie du sous-réseau à bloquer. Et le problème, c'est que sur cette technologie, en cas d'erreur de saisie d'un sous-réseau, le firewall remplace la saisie par NI. Donc l'effet était immédiat, tous les flux venant d'Internet vers les partenaires dans tous les sens ont été bloqués. Et alors cerise sur le firewall, cette technologie de firewall, elle implémente une espèce d'alerte en cas de blocage sur le port 80, c'est-à-dire qu'elle détecte que c'est de l'HTTP, et au lieu de bloquer et d'envoyer un reset ou de dropper, elle envoie une page web avec son logo indiquant le blocage du flux. Ce qui fait qu'un manager d'une DSI d'une autre entreprise, lui-même personnellement client donc de la première entreprise, et dont la DSI était cliente de la technologie de firewall, est allé sur le site, a vu cette erreur-là, a contacté l'éditeur de firewall, qui lui-même par contre a tout de suite compris d'où venait la problématique, et a appelé la première entreprise dont tout était coupé, ce qui fait qu'au final le problème a été réglé assez rapidement. Donc une fin heureuse, mais bon, ouf, ça aurait pu être bien pire.
La conclusion qui est importante, c'est que rien ne sert d'avoir des magnifiques outils avec des superbes fonctionnalités si on n'a pas au préalable correctement formé les individus qui vont devoir les gérer les configurer et faire qu'au final, le dispositif de sécurité sert à quelque chose, atteint les objectifs qu'on s'était fixés. N'oubliez pas de bien former les gens qui vont devoir gérer la sécurité.
Oui, et un autre point, c'est que ça ne sert à rien de mettre la pression inutilement sur les intervenants en étant sur leur dos et toutes les 5 secondes à leur demander si ça a été fait ou pas. Il faut les laisser faire leur travail
ça
sans
sent
trop
le vécu. Quand même. Est-ce que tu veux te confier à nous ?
C'est toujours plus difficile de travailler quand tu as quelqu'un derrière ton dos, ou même plusieurs personnes, des chefs, des gens au téléphone qui te mettent la pression. Tu fais facilement des erreurs.
Ouais, c'est pareil pendant une garde à vue ou une perquisition et que tu dois récupérer des données et que l'enquêteur il comprend rien à ce que tu es en train de faire, mais tu lui récupères des données hyper importantes et tu te plantes et tu te trompes et c'est sous le stress, c'est souvent très dur.
Ouais.
Ouais, ils sont quand même pas mal tirés parce qu'ils ont bien résolu l'incident principal quand même.
Ouais, la panne n'a pas duré trop longtemps et bon, ça s'est bien terminé.
Merci pour cette minute fail, Vlad. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Ouais, salut.
Salut.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.